C'est bon, merci. Alors nous sommes dans une série de messages sur la première épître de Paul à Timothée. Et nous sommes arrivés au chapitre 3. Donc 1 Timothée, chapitre 3, c'est dans le Nouveau Testament. La semaine dernière, on a parlé de la place de la femme dans l'Église. Et aujourd'hui, nous allons parler de l'évêque. Qu'est-ce que c'est un évêque? Je lis 1 Timothée chapitre 3. Cette parole est certaine, si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, il désire une œuvre excellente. Il faut donc que l'évêque soit irréprochable, mari d'une seule femme, sobre, modéré, réglé dans sa conduite, hospitalier, propre à l'enseignement. Il faut qu'il ne soit ni adonné au vin, ni violent, mais indulgent, pacifique, désintéressé. Il faut qu'il dirige bien sa propre maison et qu'il tienne ses enfants dans la soumission et dans une parfaite honnêteté. Car si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l'Église de Dieu? Il ne faut pas qu'il soit un nouveau converti, de peur qu'enflé d'orgueil, il ne tombe sous le jugement du diable. Il faut aussi qu'il reçoive un bon témoignage de ceux du dehors, afin de ne pas tomber dans l'opprobre et dans les pièges du diable. Voilà donc le passage que j'aimerais que nous voyions ce soir, qui parle de l'évêque. Alors quand on entend parler d'évêque, immédiatement en France, on a cette image d'un prélat avec une mitre et une crosse qui dirige un évêché, c'est-à-dire qui dirige plusieurs paroisses et qui est supérieur à des prêtres. Évêque qui a lui-même été nommé par un cardinal qui lui-même fait partie du collège des cardinaux au Vatican, qui élit le pape, et donc la hiérarchie est toute là, le pape, les cardinaux, les évêques, les prêtres, et ensuite les fidèles. Ça, c'est le modèle de l'Église catholique romaine. Maintenant, si on regarde le modèle biblique, ce n'est pas du tout pareil. Dans le modèle biblique, il n'y a pas de hiérarchie entre évêque et prêtre. Et pour une bonne raison, c'est qu'il n'y a pas vraiment de prêtre au sens où on le voit dans l'Église de Rome. Dans la Bible, les prêtres, ce sont les prêtres de l'Ancien Testament, c'est-à-dire des Israélites qui officiaient dans le temple de Dieu. Et ça, c'était dans l'Ancienne Alliance. Quand Jésus est mort et ressuscité une fois pour toutes, il n'y avait plus besoin de temple, plus besoin de sacrifice d'animaux dans le temple. Pourquoi? Parce que Jésus était l'agneau de Dieu offert pour les péchés du monde une fois pour toutes, dit la Bible. Donc on n'avait plus besoin de temple, ni d'autel, ni de sacrifice, ni de prêtre. Ça, c'est l'Ancienne Alliance. Dans la Nouvelle Alliance, on a les chrétiens, les croyants qui ont reçu le Saint-Esprit, qui forment un seul corps et qui sont appelés eux-mêmes des prêtres. C'est vrai. Si vous prenez par exemple Apocalypse 1, verset 6, je vais lire la fin du verset 5 pour le contexte. À celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, et qui a fait de nous un royaume, des prêtres pour Dieu, son Père. À lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Donc, qui sont les prêtres là dont il parle? Voilà, tous les croyants, tous ceux qui ont été aimés et délivrés de leurs péchés par le sang de Christ. C'est ça, les prêtres. Et donc, tous ceux qui appartiennent à l'Église, qui sont croyants en Jésus-Christ, sont des prêtres. C'est-à-dire qu'ils sont appelés à intercéder pour les hommes auprès de Dieu, à se tenir entre Dieu et les perdus pour dire « Seigneur, sauve-les. Seigneur, aie pitié de ces personnes. » Ça, c'est pour chaque chrétien. Mais alors, est-ce que l'Église n'a aucun responsable? Est-ce que les églises fonctionnent comme ça, au petit bonheur la chance? Non, on voit dans le Nouveau Testament qu'il y a des responsables. au début, il y avait les apôtres. Les 12 apôtres qui avaient été choisis par Jésus. Judas est mort en se suicidant, il a été remplacé par un autre, et il y avait 12 apôtres, et ils dirigeaient l'église, mais très vite, ils ont dû s'éparpiller, et puis ils ont dû confier, parce qu'il y avait beaucoup trop d'églises, il n'y avait que 12 apôtres, il y avait beaucoup plus que 12 églises, forcément, il fallait confier la responsabilité des églises à d'autres personnes. Alors, à qui était-elle confiée ? À des évêques, justement. Et si on regarde, par exemple, Philippiens chapitre 1, verset 1, donc Paul aux Philippiens chapitre 1, verset 1, Paul et Timothée écrivent aux chrétiens de la ville de Philippe, Paul et Timothée, serviteurs de Jésus-Christ, à tous les saints en Jésus-Christ. Tous les saints, c'est qui ? Tous les chrétiens. Voilà. Hein, c'est pas une catégorie particulière de l'Église, les saints, c'est tous ceux qui sont sanctifiés par la foi. À tous les saints en Jésus-Christ qui sont à Philippe, la ville de Philippe, aux évêques et aux diacres. Donc on voit que l'Église, là, est composée de saints et que ces saints sont organisés avec les évêques, les diacres et les autres, si on peut dire. Alors, si on regarde maintenant un autre passage, je suis désolé de vous faire tourner les pages, mais c'est une étude biblique, c'est dans l'épître à Tite. Chapitre 1, donc c'est juste après Timothée, hein, épître à Tite, chapitre 1, à partir du verset 5. « Je t'ai laissé en Crète, hein, il parle à Timothée, afin que tu mettes en ordre tout ce qui reste à régler et que selon mes instructions, tu établisses des anciens. » Ah, voilà un autre mot. Dans chaque ville, s'il s'y trouve quelque homme irréprochable, mari d'une seule femme, ayant des enfants fidèles, qui ne soit ni accusé de débauche ni rebelle. Qu'est-ce que vous remarquez dans cette description ? Elle ressemble énormément à celle de Timothée, sauf qu'elle est plus courte. Mais c'est vraiment la même chose, un mari d'une seule femme, des enfants irréprochables. Verset 7 de Tite, « Car il faut que l'évêque soit irréprochable. » comme économe de Dieu. Et puis là, il y a encore une description. Il faut qu'il ne soit ni arrogant, ni colérique, ni adonné au vin, etc. Donc, il faut établir des anciens, car il faut que l'évêque. Donc, on se rend compte qu'il y a deux mots interchangeables là. Des anciens et des évêques. Ancien, c'est un mot d'abord qui veut dire quelqu'un qui a de l'âge, quelqu'un qui a de l'expérience, surtout quelqu'un qui a de la maturité. Donc, un ancien dans une église, c'est un homme qui a une maturité dans la foi. Mais c'est aussi un terme qu'on utilisait dans les synagogues chez les Juifs. Une synagogue était dirigée non pas par le rabbin, figurez-vous, mais par des anciens. Voilà. Le rabbin était l'enseignant, mais il ne dirigeait pas la synagogue. C'était le collège d'anciens. Et donc, le mot « ancien », c'est un mot pour les Juifs, en fait. Et le mot évêque, c'est un mot qu'on utilise en Grèce. Un évêque, pour les Grecs, c'était un surveillant. Le mot veut dire surveillant ou un gardien. Par exemple, lorsqu'il y avait des choses de valeur à garder, on faisait appel à un évêque. Alors, ce n'était pas du tout un homme religieux, c'était un gardien qui surveillait les choses de valeur. Lorsqu'il y avait un petit commerce ou un marché, le responsable du commerce ou du marché s'appelait un évêque. Ce n'était pas du tout un homme religieux, c'était un surveillant, un organisateur, un responsable ou un directeur même, on pourrait dire aujourd'hui. Hein. Donc le mot existait, le mot évêque, dans la langue grecque, chez les Grecs. Et simplement les apôtres ont pris ce mot et ils l'ont appliqué au surveillant de l'Église, au responsable d'Église. Le mot juif, c'est ancien, le mot grec, c'est évêque, mais en fait, c'est la même personne, puisqu'on voit que les qualificatifs sont pareils. Donc, dans une église, il y a les évêques ou anciens, les diacres et les autres, frères et sœurs. Alors, il dit ici, si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, on revient à 1 Timothée 3, il désire une œuvre excellente. Comme je vous l'ai dit, un évêque, c'est quelqu'un qui est là pour garder l'Église, pour veiller sur elle. C'est une grande responsabilité. On voit que même dans le Nouveau Testament, ils étaient souvent plusieurs, hein, parce qu'il y avait beaucoup de responsabilités, surtout si l'Église avait une certaine taille. Et ce verset m'a toujours troublé si quelqu'un aspire à être évêque. Ça m'a troublé parce que moi, mon histoire personnelle, c'est que je n'aspirais pas à être évêque, à être pasteur. Je voulais pas ça du tout. Je voulais être un bon chrétien dans l'Église, engagé, peut-être un diacre. Oui, ça, d'accord. Mais surtout pas un pasteur. Je voulais pas quitter toute ma vie pour suivre le Seigneur et m'occuper de l'Église. Je voulais garder ma vie dans le monde séculier, travailler dans le monde, gagner de l'argent surtout, et puis avoir une vie bien confortable. Et puis c'est le Seigneur qui m'a appelé à son service et j'ai dit oui. Et c'est pour ça que chaque fois que je voyais ce verset, je disais, mais qu'est-ce que ça veut dire si quelqu'un aspire? Moi, je n'ai jamais aspiré au début. Après, je suis content d'être pasteur, évidemment. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Mais en fait, il y a un certain nombre de personnes qui aspirent et qui peuvent désirer s'occuper de leurs frères et sœurs dans l'Église. Parce qu'un pasteur, il ne s'occupe pas normalement d'objets ni de choses matérielles, il s'occupe d'âmes. Et combien c'est délicat, combien c'est difficile aussi. Les objets, vous les mettez dans la boîte, tac, touc, tic, vous les vissez, hein, c'est parti. Une âme, vous ne pouvez pas la mettre dans la boîte et la visser. Une âme, elle a sa volonté, sa sensibilité, elle a besoin de protection. On ne peut pas, ce n'est pas des objets. Et donc, s'occuper des âmes, c'est très délicat. Et il faut vraiment quelqu'un qui aspire à cela d'une façon pure. Quelqu'un qui dise, voilà, je veux servir le Seigneur de tout mon cœur. Et j'aimerais vous citer Charles Spurgeon, ce pasteur anglais du 19e siècle, qui décrivait un peu quelqu'un qui n'a pas d'autre désir que de servir le Seigneur. Il disait, si l'un de vous, alors il parlait à ses étudiants en théologie, si l'un de vous se satisferait d'être un rédacteur en chef d'un journal, ou d'être un commerçant, ou d'être un fermier, ou d'être un médecin, ou d'être un avocat, ou un sénateur, ou un roi, au nom du ciel et de la terre, qu'il y aille, qu'il quitte la théologie et qu'il fasse ce métier. Mais si par contre vous pouvez dire que pour tout l'or du monde, vous ne voudriez et vous n'oseriez pas vous lancer dans une autre carrière que le ministère pour Christ, alors c'est le signe de votre apostolat, de votre appel. Et c'est vrai que Dieu appelle certaines personnes. Et en fait, ces personnes, avant d'être appelées, déjà, elles se morfondent un petit peu dans leur vie. Elles ont peut-être un travail ou une activité, mais elles se disent, mais qu'est-ce que je fais là ? Mon désir, ce à quoi j'aspire, c'est d'évangéliser, c'est de prêcher, c'est de parler, c'est de servir les âmes perdues. Et c'est ça quand il dit, si quelqu'un aspire, si quelqu'un a à cœur les âmes perdues, a à cœur les chrétiens, il veut les servir. Je dis attention maintenant, parce que si c'est une ambition orgueilleuse, c'est-à-dire si vous vous dites, moi ce que je veux c'est être chef de l'Église, si vous aspirez à être chef, alors surtout ne devenez pas pasteur. Vous allez faire de gros dégâts. Mais si vous aspirez à servir, on a parlé du mot ministère, là, entrer dans le ministère. On utilise beaucoup ce mot. On a même le premier ministre et tous les ministres du gouvernement. Savez-vous ce que ça veut dire, la racine du mot ministère? En grec, ça veut dire serviteur. C'est pour ça qu'en français, on dit des serviteurs de l'État. Malheureusement, il n'y en a plus beaucoup des serviteurs de l'État. On se sert, hein, soi-même. Mais un vrai ministre de Dieu, c'est un serviteur de Dieu. Ce n'est pas un chefaillon qui commande. Or, malheureusement, dans l'Église à Rome, le pasteur de Rome, hein, le responsable de l'Église de Rome, a commencé à s'enorgueillir. et a donné des ordres aux autres églises. Et comme il était à Rome et que Rome, c'était la capitale de l'Empire romain et que Rome avait tout l'argent et l'or parce que l'empereur lui-même était devenu chrétien, l'empereur Constantin, l'évêque de Rome avait une autorité et un pouvoir que d'autres n'avaient pas. Il a commencé à devenir un chef sur les autres pasteurs. Et il s'est appelé l'évêque des évêques. Et puis finalement, il s'est appelé carrément le Saint-Père et tous les noms qui sont donnés au pape. Mais ce n'était pas comme ça dans le Nouveau Testament. Même les apôtres, si je vous cite l'apôtre Pierre, qui est considéré comme le premier des apôtres, etc. L'apôtre Pierre, quand il écrit dans sa première épître, il dit « Pierre, moi, ancien comme vous. » Donc moi, pasteur, ancien, évêque comme vous. Il ne dit pas « moi, ancien supérieur qui a été appelé par Jésus-Christ et qui vous donne des ordres ». Non, il dit « moi, ancien comme vous ». Pierre se mettait à la même place que les autres pasteurs et évêques. Si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, il désire une œuvre excellente. Une œuvre plus qu'excellente, on pourrait dire même sacrée. S'occuper des âmes, c'est sacré. S'il n'y a pas l'appel de Dieu, on fait des catastrophes. On risque de prêcher un faux évangile, on risque d'enseigner des fausses doctrines, on risque de blesser les gens plutôt que de les bénir. C'est une œuvre excellente, c'est pour ça qu'il faut un appel de Dieu. Il faut que l'évêque soit irréprochable, dit le verset 2. Et là, on commence les qualifications pour être évêque. Et ce qui est frappant, c'est qu'il n'y a pas tout ce qu'on attend des qualifications habituelles. Il ne dit pas « il faut un doctorat ». Il ne dit pas « il faut être riche » ou « il faut être bien né » ou « il faut être fils de ». La première qualification, et même les autres, il faut avoir une vie irréprochable. Il faut être quelqu'un qui est vraiment chrétien, vraiment fidèle à Dieu. Irréprochable, ça ne veut pas dire qu'on est sans péché et parfait. La Bible dit que si quelqu'un prétend qu'il n'a pas de péché, il se séduit lui-même. Donc, malheureusement, nous péchons tous d'une façon ou d'une autre. Mais quelqu'un d'irréprochable, c'est quelqu'un où personne ne peut voir un péché dans sa vie. C'est ça. Parce que nous connaissons nos péchés. J'ai toujours été frappé quand je lis les biographies des missionnaires. Une des premières que j'ai lues, c'est celle de Hudson Taylor, ce missionnaire anglais en Chine. C'est un des premiers qui a ouvert la Chine pour l'évangile. Et c'était surtout un des premiers missionnaires à vivre en chinois avec les Chinois. Parce que tous les autres missionnaires anglais, ils avaient fait une sorte de colonie protestante où ils considéraient les Chinois comme des barbares. Et lui, Hudson Taylor, quand il est arrivé en Chine, c'est avec l'amour des Chinois. Et il s'est habillé en chinois au point que tous les autres se sont moqués de lui et l'ont même rejeté. Ils ont dit « Mais qu'est-ce que c'est que ce type qui s'habille comme les Chinois ?» Et quand vous lisez la biographie d'Hudson Taylor, vous êtes frappé d'une chose. D'abord, vous dites « Cet homme, il vivait la Bible, mais il était là. » quoi. Il était... Nous, à côté, on est de la rigolade. Hein. Il avait une foi d'une sincérité. Il était à fond pour le Seigneur. Et en même temps, quand vous lisez son autobiographie, combien de fois il dit « j'ai raté, je suis mauvais, je n'ai pas fait comme le Seigneur le voulait ». Alors vous vous dites « il est un peu dur avec lui-même quand même, il exagère ». Mais non, c'est que chacun de nous, on sait là où on a péché. On sait ce que Dieu nous a demandé à nous et qu'on a raté. Ce n'est pas aux autres de nous dire ce qu'on a fait comme péché. C'est au Saint-Esprit et à la Bible de nous montrer. Et donc, être irréprochable, c'est qu'aux yeux des hommes, un évêque doit être irréprochable. C'est-à-dire, on ne peut pas dire, voilà, c'est un gars, il est malhonnête, il est roublard, il a une double vie, ou il a des péchés, Non, il faut vraiment qu'il ait une vie transparente, nette, irréprochable. Mari d'une seule femme. Alors là, on se rend bien compte qu'il y a une grosse différence entre le Nouveau Testament et l'Église catholique. Dans l'Église catholique, depuis des siècles, on a instauré le célibat des prêtres et donc le célibat des évêques va de soi. Or, ce n'était pas le cas dans l'Église première. Dieu n'a jamais demandé aux prêtres, n'a jamais demandé de prêtres, mais il n'a jamais demandé aux anciens, aux évêques d'être célibataire. Au contraire, il dit qu'il doit être mari d'une seule femme. Ça ne veut pas dire qu'on est obligé d'être marié, puisque Paul ne l'était pas, par exemple, hein. Mais c'est quand même mieux d'être marié. Mais en fait, ici, l'expression, c'est « il doit être l'homme d'une seule femme ». Et il y a une petite nuance, ce n'est pas que Dieu demande qu'il ne soit pas polygame, par exemple, hein. C'est que Dieu dit « l'évêque, il doit avoir son épouse, et c'est tout ». Il ne doit pas être un coureur de jupons, utiliser sa place pour séduire. Vous savez, ça va très vite. Si une femme admire un pasteur, hein, pour ceci ou pour telle et telle raison, ça peut être très facile pour ce pasteur d'aller vers cette femme et de la séduire, et de la flatter, et puis de se laisser flatter, et puis de fil en aiguille, il y a une relation adultère. C'est arrivé malheureusement plus d'une fois. C'est pour ça qu'ici, Dieu met en garde, l'évêque doit être homme d'une seule femme. Il ne doit pas regarder ailleurs que son épouse. Il doit l'aimer et la chérir de tout cœur. Il doit être sobre. C'est quelqu'un qui n'est pas extravagant, ni qui ne fait rien d'extrême qui dans ses activités. Il ne mange pas trop, il ne boit pas trop, il ne fait pas trop de sport, il ne fait pas trop de ceci, pas trop de cela. Il est sobre. Parce qu'il a tellement de choses à gérer qu'il a intérêt à être sobre. Modéré, réglé dans sa conduite, c'est un peu toujours la même idée, hein. Il doit savoir gérer sa vie. Hospitalier, combien c'est important d'être hospitalier, de savoir recevoir. Mais l'hospitalité, ce n'est pas simplement dans sa maison, c'est aussi dans son cœur. Est-ce qu'on est à l'écoute des autres? Est-ce que quand quelqu'un vient vous voir, est-ce que vous êtes tout le temps dérangé ou est-ce qu'au contraire, vous accueillez la personne? C'est ça l'hospitalité. Et même le mot hospitalier qui est utilisé là par l'apôtre Paul, en fait, c'est le mot qui aime les étrangers. L'évêque doit être quelqu'un qui n'a pas peur de l'étranger, qui au contraire l'aime et qui l'accueille. À cette époque-là, les chrétiens circulaient pas mal à cause des persécutions. Souvent, ils étaient en fuite, hein, à droite, à gauche. Et les seules personnes qui les recevaient chez eux, c'était qui ? Les autres chrétiens. Parce que les païens, quand ils voyaient, on tapait à leur porte, « Bonjour, je suis en fuite, je suis persécuté, mais quoi ? Je suis chrétien, ah, tu es un de ces cannibales incestueux, parce que pour les Romains, les chrétiens, c'était des cannibales, hein, parce que quand ils prenaient le pain, ils disaient qu'ils prenaient le corps de Christ. Hein. Alors, on leur fermait les portes et seuls les chrétiens recevaient les chrétiens. Et s'il n'y avait pas eu l'hospitalité, hein, beaucoup seraient morts dans la rue. Aujourd'hui, nous devons aussi être hospitaliers dans l'Église, chez nous et dans notre attitude en général. Propre à l'enseignement, un pasteur est appelé à enseigner la Bible. C'est quand même la majeure partie de son travail. Il doit nourrir le troupeau, si on peut dire, qui lui est confié. Un pasteur, quel est le travail d'un berger? Parce que pasteur, ça veut dire berger. Quel est le travail principal du berger? Voilà, veiller sur son troupeau pour qu'il ait toujours à manger, pour qu'il donne du lait ou de la viande. Donc la majeure partie du travail du berger, c'est de chercher des pâturages pour son troupeau. Et il est toujours en quête d'un nouveau pâturage parce que surtout les brebis, elles mangent tout. Elles mangent les racines avec, il ne reste plus rien qui pousse. Donc il faut aller chercher un autre pâturage plus loin dans la montagne. Et c'est ça son but, et c'est fatigant, c'est pénible, mais il y va et il emmène ses brebis avec lui. Et quand une est souffrante, quand une se blesse, il va la soigner parce que chaque brebis compte. Quand il y a un animal sauvage qui les attaque, il va les défendre, il va même essayer de tuer l'animal. Ça, c'est le rôle du berger. Veiller sur les brebis et les nourrir. Et donc, la nourriture, c'est par l'enseignement de la Bible. Et il faut qu'il y ait un enseignement riche, varié, où les chrétiens entendent tout le conseil de Dieu. Un enseignement pur aussi, où il n'y a pas de compromis, c'est la vérité du Seigneur. Il ne faut pas qu'il soit adonné au vin. Donc il y a certains serviteurs de Dieu qui s'abstiennent de tout alcool, de toute boisson forte, ce qui est tout à fait correct, parce que comme ça, vous évitez tout piège. Parce que ça va très vite. Aujourd'hui, vous êtes irréprochable, et puis vous êtes invité, et là, vous buvez à jeun, vous buvez quelques petits apéritifs, et d'un seul coup, vous vous mettez à dire n'importe quoi, à faire n'importe quoi, parce que l'alcool s'est emparé de vous. Et on va dire, oh, bah, t'as vu le pasteur, bravo, hein. Et après, vous avez une image qui est fichue pour toujours, hein. Le pasteur pompette, hein, ou je ne sais pas comment dire. Ça va vite, hein. C'est pour ça qu'il faut être extrêmement prudent avec l'alcool. Néanmoins, c'est Paul dans Timothée, hein, qui conseille à Timothée de boire un peu de vin pour ses maux d'estomac. Donc, on voit bien que le vin n'était pas interdit, mais qu'il fallait vraiment s'en méfier, surtout si on était serviteur de Dieu. Il y a aussi ce qu'on appelle l'alcoolisme mondain ou l'alcoolisme secret, c'est-à-dire c'est des gens qui boivent un petit coup tous les jours à la maison, jamais en public. Mais finalement, ce petit verre-là d'alcool, ils y tiennent et ils ne peuvent plus s'en passer, hein. Et ils ont toujours une petite bouteille derrière les fagots. Quand on est en voyage, j'ai toujours ma petite, comment on appelle ça, petite flasque. Oui, c'est de l'eau, vous inquiétez pas. Oui, puis en fait, c'est du whisky ou quelque chose, parce qu'on est un alcoolique caché. C'est terrible, on ne peut pas rester comme ça, il faut vite arrêter, se soigner. Il ne doit pas être ni violent, alors ça va pas mal avec l'alcool, parce que l'alcool rend violent souvent, mais indulgent, pacifique. Donc, les pasteurs colériques qui se fâchent, qui s'énervent contre les gens, qui sont violents même, n'ont pas de place dans l'église de Dieu. Hein, dans l'église, c'est être indulgent, pacifique. On doit toujours chercher la paix, jamais la bagarre. Ça, c'est le témoignage de Christ. Regardez Jésus-Christ, qui est appelé le chef des bergers. Hein. Est-ce que vous l'avez vu se battre avec quelqu'un ? La seule fois où il a eu une action forte, on peut dire, c'est dans le temple lorsqu'il a renversé les tables. On peut dire que c'était violent, quelque part. Parce qu'il y avait toutes ces tables avec des changeurs de monnaie, avec ces trafiquants qui se mettaient plein les poches dans le temple, hein, dans le parvis du temple. Et Jésus était tellement en colère que son temple, le temple de son père, soit souillé, qu'il a renversé les tables. Mais il n'a pas touché à une seule personne. Il n'a pas mis des coups de poing, il n'a pas donné des coups de fouet aux gens, contrairement à certaines imageries. Non, Jésus a été violent avec la table, mais pas avec les gens. Et puis, il faut qu'il dirige bien sa propre maison et qu'il tienne ses enfants dans la soumission, dans une parfaite honnêteté. Il y a beaucoup d'enfants de pasteurs qui se comportent mal. La raison principale, c'est que le pasteur est tellement occupé à l'église qu'il ne prend plus le temps ou n'a plus le temps avec ses enfants, et ses enfants le ressentent et quelque part se vengent, si on peut dire. L'autre raison, c'est que être enfant de pasteur, c'est difficile parce qu'on exige plus de vous. Attends, tu es le fils ou la fille du pasteur. T'as intérêt à te tenir à carreau, hein, tout le temps. Et le pasteur, il veille, parce que c'est écrit là, hein. Il faut que vos enfants soient tenus dans la soumission, donc le papa, il va veiller à ce que ses enfants se tiennent bien. Mais au bout d'un moment, ça peut créer l'effet inverse. Si le papa n'a pas assez d'affection et d'amour, s'il est tout le temps en train de faire des reproches et de corriger, de châtier ses enfants, les enfants vont se sentir là aussi rejetés, et ils vont aller de l'autre côté. Dès qu'ils ont 18 ans, bye bye. Et combien vous avez de fils de pasteurs, hein, qui sont dans la drogue, dans la musique rock, dans le cinéma, ils sont loin de Dieu. Je ne sais pas si ce n'était pas Elvis Presley, hein, qui était fils de pasteur. Elvis Presley, c'est la rébellion à cette époque-là, à l'état pur. Et il s'est rebellé contre quoi ? Ben, contre tout ce qu'il a reçu comme éducation. Voilà. Bien sûr, c'était son choix aussi, on ne peut pas accuser son père. Hein, mais le Seigneur nous invite à vraiment nous occuper de nos enfants. Et soyez indulgents avec les pasteurs ils ont besoin de temps avec leur famille. Ils ont besoin de s'occuper de leurs enfants, de les aimer, de prendre soin d'eux. Mais c'est vrai que si un pasteur ne gère pas bien sa maison, c'est-à-dire si c'est sa femme est désordonnée, ses enfants sont désordonnés, sa vie est désordonnée, on peut se dire, mais déjà, va gérer ta maison avant de gérer l'église. L'église, c'est beaucoup plus compliqué. Enfin, il y a plus de monde à gérer. Et donc, ça veut dire aussi que la priorité, quand même, c'est la famille. On ne doit pas délaisser sa famille sous prétexte qu'on est serviteur de Dieu. Il ne faut pas qu'il soit un nouveau converti, de peur qu'enflé d'orgueil, il ne tombe sous le jugement du diable. Combien, là encore, de nouveaux croyants qu'on a mis au rôle de pasteur ont fait d'énormes gaffes, d'énormes catastrophes. C'est sûr qu'un nouveau converti, il est tout feu, tout flamme, il est plein de zèle, et on se dit, waouh, ça c'est quelqu'un, il en veut, alors comme il n'y a personne, tiens, on va le mettre à un poste de responsabilité dans l'église. Sauf qu'il n'est pas un ancien, comme dit la Bible. Il est un tout nouveau converti, c'est-à-dire il va se faire prendre dans tous les pièges, il va réagir trop fort, il ne va pas faire attention à tout le monde, il va manquer de cette maturité qui prend les choses paisiblement. Et être pasteur, être évêque, c'est surveiller tout le monde, hein, c'est veiller sur toute l'église. Hein. C'est pas juste être un chef d'entreprise. Les chefs d'entreprise, si les employés ne suivent pas, ben, tant pis, hein, on les vire, on en prend d'autres. Ce qui compte, c'est que l'entreprise fonctionne, qu'il y ait de l'argent qui rentre, c'est ça. Hein. Une église n'est pas une entreprise. L'église, ce sont des âmes. Il n'y a pas de vente, il n'y a pas de commerce, là. Et donc, chaque âme est précieuse. Et s'il y a des âmes qui ont du mal à suivre, des brebis qui sont fatiguées ou qui ont des problèmes, c'est au pasteur de s'en occuper. Mais si c'est un nouveau converti, il risque de dire « Oh, ben, ils n'ont qu'à suivre, hein, ils n'ont qu'à se dépêcher. Hein, moi, je suis devant, allez, suivez-moi. » Et il va décourager les gens. Et son église va souffrir. Ici, dans ce passage, on voit donc qu'il y a plusieurs, on pourrait dire, tests pour le pasteur. Premier test, c'est qu'il doit aspirer quelque part à cette charge. C'est-à-dire, il doit avoir à cœur, avoir cet amour pour les âmes. Ça, c'est le premier test. Le deuxième test, c'est les tests de sa propre vie. Est-ce qu'il a une vie consacrée? Est-ce qu'il a une vie irréprochable? Est-ce qu'il est fidèle, pas simplement derrière le pupitre, mais devant le pupitre, et à la maison, et au travail, partout où il est? Et puis, le troisième test, c'est le test des capacités. Est-ce qu'il est capable d'enseigner? Est-ce qu'il est capable de protéger les chrétiens des fausses doctrines? Est-ce qu'il connaît bien sa Bible? Est-ce qu'il est capable de diriger des gens aussi? Dans une église, un pasteur est dirigeant, ou les pasteurs sont des dirigeants. Ça, c'est écrit, hein, il parle des conducteurs. Un pasteur est un conducteur. Donc, est-ce qu'il a la capacité de conduire? Ça aussi, ça prend. Hein, c'est pas facile à faire. Alors, ce message est bon pour les futurs pasteurs. Voilà ce que vous devez viser, et pas moins. Voilà le modèle que le Seigneur donne. C'est bon pour les pasteurs actuels, pour nous, parce que ça nous rappelle le modèle, et si on s'en est écarté, c'est le moment d'y revenir. Est-ce que ma vie est conforme à ce qui est écrit ici? Est-ce que mon ministère glorifie le Seigneur comme on voit ici? Et puis c'est bon pour les chrétiens qui ne sont pas pasteurs, mais qui ont un pasteur ou des pasteurs qui les nourrissent et qui les enseignent et qui s'occupent d'eux, que vous rendiez compte que c'est une œuvre excellente, c'est-à-dire excellente, mais très dure, très dure. Un pasteur, c'est comme un médecin. Vous pouvez être appelé à n'importe quelle heure pour n'importe quelle situation. Vous avez toujours le téléphone qui sonne, qui chauffe. Hein. Le téléphone chauffe beaucoup. Vous n'avez jamais de vacances au sens propre, c'est-à-dire un pasteur n'est jamais détendu en vacances en disant « Là, je n'ai pas à m'occuper de mon église. » Non, vous avez toujours les frères et sœurs sur votre cœur en disant « J'espère que tout se passe bien. » Même si vous êtes loin, vous dites, vous pensez à eux, vous priez pour eux. Et puis, au fond, vous êtes toujours dans le ministère, vous êtes toujours en train de servir le Seigneur, où que vous soyez. Hein. Donc, ce n'est pas un métier facile, mais c'est le plus beau des métiers pour moi, parce que les âmes, c'est ce qu'il y a de plus sacré, c'est éternel. Même un médecin qui s'occupe des corps, il s'occupe que du corps. Le corps va retourner à la poussière. Mais le pasteur, il s'occupe des âmes. Elles ne retourneront pas à la poussière. Et s'il s'en occupe bien, elles seront sauvées parce qu'elles vont croire en l'évangile. Et elles seront fidèles parce qu'elles resteront attachées à Dieu. Et s'il s'en occupe mal, alors il y a des conséquences terribles. Hein. Dans le livre d'Ézéchiel, il est question des faux bergers, des mauvais bergers d'Israël qui ne se soucient pas des brebis, qui ne les nourrissent pas, qui ne les protègent pas. Que Dieu nous garde d'être ainsi. Priez pour les pasteurs, priez pour tous les pasteurs de France aussi, qu'ils soient fidèles. Priez pour qu'il y ait des étudiants, des futurs pasteurs. Nous avons un institut biblique dans cette église. Et cet institut, ce n'est pas simplement pour leur donner des connaissances bibliques, c'est pour qu'ils aient une vie de pasteur, une vie de missionnaire, une vie de serviteur de Dieu. On voit ici que ce n'est pas tellement les connaissances qui primaient, mais que c'était la vie. Et ça, ça se transmet d'ancien à nouveau. Hein? C'est une transmission de savoir. Ce n'est pas juste des cours. C'est pour ça, souvent, on nous demande « Ah, est-ce que je pourrais avoir vos cours en photocopie ou en... » ou par Internet, ou par... Je dis, mais vous pouvez toujours les avoir. Mais ce qu'on donne, on le transmet. Si je ne suis pas là, ou si l'autre pasteur, le professeur, n'est pas là pour le transmettre, vous allez avoir la moitié du cours. Parce qu'il n'y a pas la transmission, il n'y a pas la voix, les paroles, l'intonation, l'amour qui est dedans. Et c'est pour ça que nous avons un institut, et c'est pour ça que nous voulons que les cours soient donnés par des pasteurs aussi. J'ai terminé mon message. Est-ce qu'on va prier? Et puis après, si vous avez une ou deux questions, je pourrai les prendre. Nous allons nous incliner dans la prière.